Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et notre émission de ce soir sera consacrée à la diaspora judéo-espagnole en France et à son histoire musicale. Vaste sujet, me direz-vous, et vous avez raison. Et c'est bien pour cela que, pour en parler, j'ai invité dans ce studio la spécialiste des musiques judéo-espagnoles en France, Jessica Roda. Alors, vos titres, c'est un peu long, je vais raccourcir. Vous êtes anthropologue, ethnomusicologue, vous avez fait une thèse, bien sûr. Je reviendrai à votre parcours brillant. Mais vous venez de publier aux presses universitaires de Rennes un livre qui s'intitule « Se réinventer au présent, les judéo-espagnols de France, famille, communauté et patrimoine musical ». Jessica Roda, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Alors Jessica, je vais me permettre de vous appeler par vos prénoms, je ne le fais pas avec tout le monde, mais il faut dire qu'on se connaît depuis des années maintenant. Tout au début de votre intérêt pour le chant des musiques juives, chant, je ne sais pas comment vous souhaitez l'écrire, ça je vous laisse le choix. Et vous êtes aujourd'hui chercheur invité à la Columbia University aux États-Unis, chercheur, post-doctorante à l'Université Concordia au Canada, ce qui montre on ne peut mieux la reconnaissance de vos travaux par vos pairs. Et ceci est d'autant plus important que les chercheurs en musique juive, comme on le disait encore tout à l'heure, ne sont vraiment pas nombreux dans le monde, peut-être les deux doigts d'une main ou à peine plus. Alors, ma première question sera peut-être indiscrète, mais d'où est venu votre intérêt pour les musiques juives et comment vous est venue cette vocation ?
Alors, c'est une longue histoire, je vais essayer de la faire courte, mais ça remonte à 2006, un projet identitaire, je dirais, et il y a une rencontre, donc en 2006, quand je revenais du Canada, et que je voulais reconnecter autour de mes origines juives, et aussi étant pianiste moi-même et flûtiste, ayant fait des études en musicologie, lorsque Hervé nous sommes rencontrés en 2006 et que je voulais travailler sur les musiques juives, ça a été un moment vraiment charnière dans ma découverte, et le lien s'est fait à cette époque à travers Alberto Remsi. Donc ce lien entre le passé, les archives et la manière dont ce passé est réactualisé aujourd'hui, donc de savoir comment la musique, en l'occurrence à l'époque de Alberto Remsi, était vécue au présent. Donc un lien véritablement entre ma passion pour la musique, un lien avec mes origines juives et puis aussi une curiosité pour la différence culturelle aussi.
Alors un lien identitaire, on l'a compris, on va parler de cette identité qui s'exprime en musique, on le sent souvent, je dis souvent qu'il y a deux piliers dans l'identité juive, il y en a plus que ça, mais en dehors de la religion, c'est en dehors de la religion la cuisine et la musique qui sont des piliers assez forts et assez prégnants. En tout cas, vous nous avez apporté des morceaux de musique judéo-espagnole, bien évidemment, ce qui tombe bien, puisque nous sommes avant tout dans une émission musicale. Mais alors, avant d'écouter le premier extrait que vous nous avez apporté, et que vous nous en parliez, je vous ai apporté une petite surprise, c'est à mon tour de vous faire une surprise. C'est un chant judéo-espagnol qui provient donc des collections de l'Institut européen des musiques juives. Je vous laisse le soin d'en deviner le titre, cela ne sera pas dur, vous verrez. Et son interprète, ça c'est un peu plus méchant.
A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A las tres tomé amante, a las cuatro me casé. A las tres tomé amante, a las cuatro me casé. Ansí ver tu hermosura, niña de mi corazón. Ansí ver tu hermosura, niña de mi corazón. Y la 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 la. Dime niña, ¿dónde vienes? que te quiero conocer. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Dime si no tienes amante, yo te haré defender. Dime si no tienes amante, yo te haré defender. Ansí ver tu hermosura, niña de mi corazón. Ansí ver tu hermosura, niña de mi corazón. Y la, 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 la. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A las tres tomé amante, a las cuatro me casé. A las tres tomé amante, a las cuatro me casé. Ansí ver tu hermosura, niña de mi corazón. Ansí ver tu hermosura, niña de mi corazón. Y la 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 la.
Alors, c'est pas moi qui va faire la désannonce. Là, au moins, le titre. Alors, je suis désolé, Jessica, je voyais en train de réfléchir, tout tournait dans la tête. Parce que je la connais, je la connais, je la connais. Alors, déjà, la chanson, vous la connaissez forcément.
Oui, c'est... à la una, il y en a six. À la une, je suis née. À la deux, j'ai grandi. À la trois, à la stress, mais quasi, je me suis mariée. Tomi amante, j'ai trouvé un amant et je me suis mariée.
Chanson de mariage ou ça se rattache à quel répertoire en fait?
En fait, ce chant serait venu du sud de l'Espagne. Mm-hmm. Et il y aurait plusieurs versions. Il y a même une version avec Me Batizaron, en fait. Ce serait une réinterprétation, enfin, une transformation d'une chanson. Oui. Il n'est pas associé, il ne me semble pas, spécifiquement au mariage. Non. Mm-hmm.
Donc, en tout cas, ça fait partie de ces chansons qu'on appelle parfois cumulatives, où on rajoute à chaque fois, comme le chant des nombres à Pessard, par exemple. Alors maintenant, la question plus difficile, est-ce que l'interprète, la femme qui chante, est-ce que vous la connaissez?
Oui.
Je ne vais pas vous torturer longtemps.
Hein. Non, il me semble bien, oui. C'est la génération de Gloria Levy. Je pense que c'est cette chanteuse ashkénaze qui a repris des chansons judéo-espagnoles.
Oui, vous êtes jusqu'à là, vous avez tout bon.
Mais j'ai oublié son nom.
Alors, c'est simple, son prénom c'est Sarah.
Ah, Sarah Levy, non?
Non, Sarah Gorby.
Sarah Gorby.
Et alors, c'est un enregistrement, c'est une question difficile et piège, mm-hmm. parce que j'ai été tiré ça donc des collections de l'Institut, et c'est vrai qu'on a des disques anciens, mm-hmm. et vous avez raison, c'est tout à fait de la même époque que le revival aux États-Unis, mais sauf que ça se passe en France, en fait, et Sarah Gorby est connue pour son répertoire plus yiddishophone, elle chante russe, elle parlait je ne sais combien de langues, et aussi l'espagnol, elle a habité, je crois, aussi en Argentine, et donc, il s'agit donc cet extrait d'un disque, un 33 tours, qui s'intitule « Chant judéo-espagnol du XVIe siècle », publié chez Philips. Entre 1965 et 1970, on n'a pas la date exacte, c'est toujours un peu difficile. Et donc, c'est Sarah Gorby qui chantait accompagnée à la guitare par Jean Bonal. Alors, vous voyez, il y a des découvertes et on en trouve beaucoup. Alors, comme je l'ai dit au début de cette émission, donc vous venez de sortir ce livre intitulé « Se réinventer au présent, les judéo-espagnols de France, famille, communauté, patrimoine musical ». Alors, quel est le sujet exact de cet ouvrage?
Alors, cet ouvrage aborde, il y a deux grandes parties dans l'ouvrage, toute une partie historique de saisir la manière dont le répertoire judéo-espagnol s'est constitué tout au long du XXe siècle. Et contrairement, par exemple, dans l'album dont on vient de parler, le chant du XVIe siècle, je ne suis pas la première, hein, Edwin Cerussi, Judith Cohen, Shoshana Veshahak l'ont évoqué également, mais le fait que cette musique-là est une musique très contemporaine et j'ai beaucoup travaillé sur la dimension historique, sur la manière dont ce répertoire s'est constitué en tant que répertoire de sauvegarde et puis répertoire de musique populaire aussi et également répertoire de projet patrimonial. Donc ça, c'est toute la partie historique. Et ensuite, j'ai travaillé sur la réactualisation de cette musique et le sens que avait cette musique aujourd'hui dans la France contemporaine, et notamment pour les judéo-espagnols de France, qui a été un lieu de la diaspora judéo-espagnole assez important, donc toute une partie ethnographique assez importante, ayant travaillé avec plusieurs associations judéo-espagnoles en France, et avec des artistes aussi de musique judéo-espagnole.
C'est vrai que c'est un ouvrage très dense, puisque en fait, il est extrait de votre thèse de doctorat, que vous avez effectué en co-direction entre la France, la Sorbonne et le Canada. on dira pas quelle mention vous avez eue, c'était la mention la plus supérieure possible. Et donc, c'est un très bel ouvrage qui fait le tour de la question. Et je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit. C'est vrai que c'est, ce disque intitulé Chant judéo-espagnol du XVIe siècle, on entend, en fait, c'est une façon de vendre le produit en quelque sorte. Mais il est clair que quand on entend Sarah Gorby réinterpréter avec une guitare, mais pas du tout la façon de jouer, d'abord, on ne sait pas exactement comment on joue au XVIe siècle, c'est complètement réactualisé. Et ça, c'est un des sujets les plus passionnants de votre ouvrage, c'est ce processus de remise presque, je dirais, à niveau, de remise à notre époque d'un répertoire ancien qu'on va complètement adapter à son temps et qu'on va aussi, d'une certaine façon, je ne vais pas dire vendre, mais présenter comme un produit nouveau pour que les gens puissent se l'approprier. C'est quelque chose d'assez remarquable. Alors, on va revenir sur votre ouvrage tout au long de l'émission, puisque l'émission est entièrement consacrée à ce très beau livre « Se réinventer au présent ». Et je vous propose tout de suite de faire une deuxième pause musicale avec une chanson très très différente donc de ce qu'on a entendu. C'est une chanson, alors je sais pas si elle a deux titres en fait. Le titre judéo-espagnol c'est Alevantes. Alors mon judéo-espagnol est bien moins bon que le vôtre, vous me corrigerez. Alevantes fos turunja, c'est ça. Et il est indiqué El Conde Niño. Pourquoi ? Il y a deux titres et c'est interprété par Jaime Effendi, on va y revenir.
En fait, il y a plusieurs interprétations et plusieurs titres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de titres pour ces chants-là. C'est beaucoup plus tard, lorsqu'il y a eu une transcription, une matérialisation de ces musiques-là, qu'il y a eu une transcription et un titre qui a été... Je vais peut-être l'expliquer après.
Alors, on écoute tout de suite.
Oh,
Alle Ventes Fosturunja ou El Conde Nino, interprété par Raïm Effendi, un enregistrement historique, je suppose. Et vous étiez en train de nous dire, juste avant qu'on écoute cet extrait, qu'il y a plusieurs titres dans les chansons judéo-espagnoles.
Oui, alors en fait, l'idée d'avoir un titre, et c'est donc les premières strophes qui ont été données comme titre dans
comme
la plupart
la prière,
des... Exactement, comme la plupart des chansons. J'ai choisi cet extrait principalement parce que, donc voilà, on est dans un texte très très long, on est dans un répertoire beaucoup plus du romancero qui a été très peu réactualisé. C'est donc un enregistrement historique qui a été réenregistré en 2008. C'est Joël Bressler et Edwin Serossi qui ont beaucoup travaillé sur les réenregistrements de Raïm Effendi. C'est les premières traces de musique judéo-espagnole.
Ça date de quelle époque exactement?
Ça date du début du XXe siècle, 1907.
Ah oui, c'est très vieux.
Lorsque justement toutes les compagnies de disques, enfin, plusieurs compagnies de disques européennes notamment, sont allées dans l'Empire ottoman et également en Afrique du Nord pour faire des enregistrements, différents enregistrements. Et Raïm Effendi est aussi un artiste qui a enregistré tous les premiers grands tubes, La Serena par exemple, A la Una Yonasi, on l'entend aussi en version turque. Ce qui est intéressant dans le chant qu'on vient d'entendre, c'est justement la différence ou le décalage qu'il peut y avoir aujourd'hui avec la plupart des grands tubes, des chansons assez rythmées qu'on a l'habitude d'entendre. Là, on est dans un romancero où on raconte toute une histoire. Il y a un enregistrement aussi turc et c'est aussi un homme. Alors que lorsqu'on parle justement de cette musique d'une transmission de génération en génération au sein de, notamment de mère en fille, on a au début du XXe siècle un homme qui est une grande star de la chanson judéo-espagnole qui interprète ces chants-là. Alors on peut se poser la question finalement, même au début du XXe siècle, du rôle de ces artistes pour les femmes éventuellement ou pour tout le monde dans les communautés.
Alors, il y a deux mois, dans ce studio, j'avais eu le plaisir d'inviter François Hazard de l'association Aquí Estamos, association judéo-espagnole, et qui, je lui avais fait part aussi de ma surprise parce que des fois, on entendait aussi des hommes. Et on est à une période un peu charnière, m'avait-il expliqué. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à réécouter l'émission. Elles sont toujours en ligne, que ce soit sur Judaïque FM dans la rubrique podcast ou sur notre site internet de l'Institut européen des musiques juives. Mais toujours est-il que, aussi la présence d'hommes, il y a beaucoup d'hommes dans les enregistrements. Est-ce que c'est pour une raison toute simple, c'est que le rôle de la femme étant... on enregistre, donc on fait un objet commercial quelque part. Il y a des carrières qui se lancent, il y a des artistes qui sont plus des artistes peut-être masculins. Et c'est vrai qu'encore une fois, l'innovation technique, la naissance de l'enregistrement, va créer de nouveaux besoins et donc va faire émerger une nouvelle pratique, en fait. Est-ce que à ce moment-là, le chant bascule plus des hommes vers les femmes, des femmes vers les hommes, parce qu'on là, on n'est plus du tout sur le même registre, c'est plus un répertoire intime ou familial. Voilà, tout ça, on en discutait avec François Hazard, c'était assez passionnant. Et il me disait justement qu'à Salonique, il y avait eu dans les années 20 ou 30 aussi toute une musique écrite pour le théâtre. Il y avait un théâtre judéo-espagnol, ce que je ne savais pas du tout. Et qu'il y avait eu des compositeurs, il y avait des hommes qui chantaient. Enfin voilà, donc et tout est lié un petit peu à l'évolution des mentalités, des techniques, des pratiques, etc.
Oui, tout à fait. Et je dirais même que cette séparation des répertoires, elle n'est peut-être pas si stricte que ça. Il y avait énormément de passages et justement l'enregistrement. Je pense à une autre femme, Victoria Hassan, c'est beaucoup plus tard, c'est dans les années 40 aux États-Unis qui a aussi fait de nombreux enregistrements. Mais c'est sûr que dans l'industrie du disque, surtout à cette époque-là, c'était beaucoup plus les hommes qui étaient présents. Et je pense que le passage et la transmission des répertoires devaient transcender, dans certains cas, la position, l'identité de genre.
Oui, parce qu'en plus, certaines parties de ce répertoire étaient chantées en famille, dans les maisons. Donc
tout
les hommes
fait.
Le connaissaient autant que les femmes, finalement. Alors, ça sonne complètement évidemment ottoman. Hein. Est-ce que c'était représentatif de ce que les juifs écoutaient ou chantaient, notamment les juifs arrivés en France dans les années 20, parce qu'il y a eu une assez forte émigration dans les années 20
oui.
à peu près en France.
Oui,
ils écoutaient du Raïm Effendi notamment.
Alors, ce que j'ai, certains écoutaient discrètement du Raïm Effendi, même si en arrivant en France, dans ce que j'ai pu recueillir lors de mes entrevues, il y a eu une forme de, pour beaucoup d'entre eux, de rejet. de cette musique-là aussi.
Pour la bonne cause de l'intégration, on va dire.
Oui, exactement. On était dans un autre paradigme. Mais il n'était pas uniquement écouté aussi par les judéo-espagnols. Il était écouté par les Turcs, par les Grecs, par les Arméniens. Enfin, c'est ça aussi la spécificité de Chaim Efendi. C'était une star pas uniquement et pas seulement de Chaim Efendi, mais de nombreux musiciens juifs de cette
époque-là. Et on va en parler, d'ailleurs, je crois, à la fin de cette émission, dans les travaux que vous menez actuellement, on parlera d'une autre star. Entre-temps, on va rester donc dans ce monde judéo-espagnol et notamment de l'Empire ottoman. J'ai parlé tout à l'heure de Salonique. C'est une ville qui était la plus grande ville judéo-espagnole du monde. Malheureusement, durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis et leurs alliés ont exterminé la majeure partie des juifs saloniciens. 46 000 juifs ont été déportés sur les 56 500 que comptait la ville au début de la guerre. Et en France, où il y avait 60 000 juifs judéo-espagnols qui s'étaient installés donc avant la Seconde Guerre mondiale, seuls 20 000 d'entre eux ont survécu, ce qui est évidemment très, très peu. Et dans votre livre, Jessica, vous dites que, je vous cite, hein, dans les années 1950-1960, époque caractérisée par le revivalisme culturel, les judéo-espagnols principalement installés aux États-Unis, en Israël, en France et en Belgique, forment une communauté transnationale en quête de repères identitaires. Et vous montrez à ce moment-là que la musique judéo-espagnole va jouer un rôle fondamental. Alors, quel rôle va-t-elle jouer cette musique par rapport à ces juifs en perte de repères identitaires ?
Alors, le pouvoir de la musique est que lorsque on est parti en diaspora, la langue va plus forcément être une langue maternelle. Donc, on perd la langue. Et ça, c'est il y a certaines personnes qui continuent à le parler, mais très peu, ça ne devient plus une langue parlée. La musique incarne la langue, elle incarne cette mémoire oubliée et également les liens avec l'Empire ottoman, les liens avec l'Espagne, puisqu'on chante en judéo-espagnol. Et également, elle va créer un lien entre l'ensemble de ces communautés à travers le monde, parce qu'on va créer ce que j'appelle ce patrimoine en commun, au sein duquel une personne qui est à Los Angeles, qui est à Paris, qui est en Belgique et qui est à Buenos Aires va se connecter et va pouvoir partager certains éléments culturels en commun. Alors ça se fait aussi à travers la cuisine, mais il est vrai que la musique, parce que c'est facilement transportable, parce qu'on l'écoute facilement, on l'envoie, on peut le partager aisément, il va avoir un pouvoir très très fort. Et pas uniquement pour la communauté, mais également pour l'exporter, pour parler de l'identité judéo espagnol, au non judéo-espagnol, donc au sein du monde juif et au sein du monde non juif également, pour reconsolider en quelque sorte cette identité qui a été principalement assimilée dans le cadre de la France.
C'est absolument passionnant et vous êtes d'une clarté limpide dans vos explications. Alors je vous propose d'écouter un troisième morceau, bien connu lui aussi. Il s'agit de la chanson La Rosa Enflorece, interprétée par Daphné Critaras, Paul Barrère, qui chante également avec elle et qui l'accompagne à la guitare, et Thomas Siligaris à la percussion.
La rose en florece en el mes de mai, mi alma se escurece sufriendo. Los vilvilicos cantan, suspiran del amor y la pasión me mata, mochigua mi dolor y la pasión me mata, mochigua. Más presto me empalomba, más presto ven a mí, más presto tú mi alma, que yo me voy a morir, más presto tú. Thank you.
Rosa en Flores, c'est une très belle version de Daphne Kritteras, Paul Barrère et le percussionniste Thomas Siligaris. Daphne Kritteras qui vient de sortir avec également Paul Barrère un superbe disque aux éditions Lior, on en a parlé il y a 2 mois également, le disque Joya de Mar, je vous invite à vous procurer bien sûr. Alors Jessica, vous montrez dans votre étude que ce qu'on nomme aujourd'hui musique judéo-espagnole est un objet hybride, comme la plupart des musiques juives d'ailleurs, qui a beaucoup emprunté aux musiques, musique de partout, hein, que ça soit d'un point de vue donc géographique, mais aussi stylistique. Et un exemple frappant est, je crois, la célèbre chanson Adio Querida. Alors, quelle est l'origine de cette chanson? Qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Alors, Adio Querida, on ne sait pas tout à fait d'où elle provient. Ce qu'il y a de particulier avec cette chanson, c'est qu'elle a une forte ressemblance avec Adio del Passato, la Traviata de Verdi. Et alors, il y a plusieurs histoires autour de ce chant-là. Certaines personnes disent que Verdi aurait eu un voisin judéo-espagnol et qu'il aurait été influencé inspiré par ce voisin judéo-espagnol pour sa composition. Néanmoins, les premières traces de ce chant-là, par exemple, Jaime Fendi n'a pas du tout enregistré Adio Querida. Les premières traces sont dans les transcriptions d'Isaac Levy dans les années 20e siècle, milieu du 20e siècle, 1960, fin des années 50. Et bon, Verdi, on est au 19e siècle. Et on sait très bien que, voilà, autour de l'hybridité et la question de l'échange, de la circulation des mélodies, est quelque chose d'assez important dans la plupart des musiques juives, mais plus particulièrement en travaillant sur les musiques judo-espagnoles, c'est quelque chose d'assez fort. Et ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est pas de savoir qui a commencé, mais c'est un exemple de une fois encore, de l'emprunt, de la transformation et de la manière dont aussi cet emprunt peut ensuite faire partie d'un patrimoine collectif au sein duquel on associe un certain discours. Et c'est le discours de l'authenticité, de l'ancienneté aussi qui est associé à ce chant-là. On a toujours le besoin de dire que c'est quelque chose d'ancien pour attribuer une certaine valeur.
C'est la réappropriation, en fait. C'est-à-dire que, à la fois, on est immergé dans une société auquel on adhère, mais on veut conserver ses particularités. Et donc, ça se fait par le biais d'un échange, en fait, entre la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on vit ses musiques, on vit ses valeurs, on les ingère et on les redonne en quelque sorte, c'est un échange comme l'oxygène et l'air avec le carbone sans arrêt. Et c'est vrai qu'à un moment, ce qui est important, c'est cet échange, c'est pas de savoir qui a donné le premier ou qui a... Voilà. Et ça, c'est très important.
Tout
alors, on va écouter donc cette chanson Adio Querida, interprétée dans sa version donc espagnole par Sandra Bessis. Et auparavant, c'est précédé par un montage que vous nous avez apporté, dans lequel donc, vous juxtaposez avec cette chanson l'air de la Traviata, de l'opéra donc de la Traviata de Verdi, interprété ici par Maria Callas, rien que cela.
Thank you.
Radio Querida, juxtaposé avec l'air donc de la Traviata, del Passato, je crois.
Adio del Passato.
Alors, ça commence aussi par Adio, c'est assez amusant. Effectivement, il y a une similarité entre les deux airs. Et ça me rappelle un petit peu l'émission, la dernière émission qu'on a fait sur la Hatikva, l'hymne national israélien. On parlait, pareil, de la ressemblance avec un des thèmes de la Moldao de Smetana. Et c'était pareil, on se demandait qui est-ce qui a inspiré qui. On a vu que c'était, en fait, pareil, beaucoup plus complexe, que ça venait de partout, que c'était impossible de savoir, que Smetana lui-même avait emprunté. Enfin, vous voyez, c'était un peu le même thème, c'est ce thème d'échange musical qui est très important dans les musiques juives. Jessica, ce répertoire judéo-espagnol, est-ce qu'il est clos ou est-ce qu'on compose encore aujourd'hui de nouvelles chansons judéo-espagnoles ?
On compose encore de nouvelles chansons judéo-espagnoles. C'est ce qui est assez fascinant, associé à ce discours de la tradition, de quelque chose d'ancien, qui finalement n'est pas tellement ancien, en termes de mélodie. Hein, là, il y a quelque chose d'important à saisir, la différence entre le texte musical, la mélodie, et le texte littéraire. Et là, c'est quelque chose, de façon générale, dans les musiques juives, important à distinguer. Parce que souvent, le texte musical, c'est pas la même période. Il peut y avoir une concomitance, mais pas forcément. Et oui, on continue à composer des chansons en judéo-espagnol. Je pense notamment à une chanson Shabbat qui est devenue assez importante dans la communauté judéo-espagnole en France. Principalement parce que Jean Carasso, à l'époque, avait de liens assez forts avec Judy Frankel et plus largement avec différents artistes de musique judéo-espagnole. Et il était un passionné de musique judéo-espagnole et il avait ramené Judy Frankel en France, il avait fait connaître Judy Frankel et Judy Frankel ainsi que Rita Gabay qui écrit des textes littéraires en judéo-espagnol et Judy Frankel qui les met en musique. Et donc cette chanson qui s'appelle Shabbat par exemple est une chanson que peut-être certains connaissent comme faisant presque partie du répertoire dit traditionnel, alors que c'est une composition, on est en 1992, mais il continue d'y avoir certaines personnes qui... On a des textes, on a des recueils de textes, donc n'importe quel compositeur qui aujourd'hui souhaiterait composer va peut-être écrire en judéo-espagnol, dans le renouveau, pourquoi pas, écrire en judéo-espagnol et accompagner avec une musique, et puis ensuite le faire intégrer au patrimoine. Mais pour être intégré au patrimoine, il faut qu'il soit reconnu par la communauté comme étant judéo-espagnol et faisant partie de ce patrimoine-là.
Donc on va écouter cette chanson Shabbat, alors de et par Judy Frankel.
Yeah.
un extrait de la chanson Shabbat, donc composée par Judy Frankel sur des paroles de Rita Gabay, c'est extrait du disque Silver and Gold paru en 2009. Et juste pour information, Judy Frankel, donc qui est née en 1943 et mort malheureusement assez jeune en 2008, est une auteure-interprète américaine, donc née à Boston dans une famille d'ascendance ashkénaze, donc ce qui ne l'a pas empêchée de s'intéresser aux traditions musicales des Juifs séfarades. Elle a notamment recueilli de nombreux chants judéo-espagnols auprès de personnes âgées qu'elle interviewait. Et par la suite, elle a enregistré plusieurs disques de chants judéo-espagnols en y introduisant parfois ses propres compositions. Alors, vous voyez, Jessica Roda, vous avez aussi interviewé beaucoup. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, la prochaine étape, ça va peut-être être un disque avec vos propres compositions. Qui sait? Alors, ça rejoint la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il existe en France des artistes qui composent aujourd'hui également des chansons judéo-espagnoles?
Alors, à ma connaissance, enfin, sûrement. Il y a des projets, différents projets de création. Je pense au groupe de Mahayan, au groupe Mahayan qui fait différents projets de
animé
de,
par Naïma Chemoul. Hein.
Exactement. Oui, pardon, Naïma Chemoul. Différents projets de création. Je pense qu'il y en a eu un récemment. À ma connaissance, il n'y a pas, mais peut-être plus récemment, c'est quelque chose. Il y a plus des artistes qui reprennent et qui, je dirais, le travail de création se fait par l'enregistrement, par le réarrangement, l'harmonisation également, le traitement de la mélodie. Donc, dans ce sens-là, il y a une création, mais de compositeur de mélodie propre, non, peut-être pas à ma connaissance, mais
vous voyez ce qu'il vous reste à faire, hein, je vous l'ai dit, c'est peut-être d'initier un mouvement comme il y a eu aux États-Unis, peut-être même au Canada, ça je ne sais pas. Oui. Et je vous propose d'écouter donc cette chanson de Judy Frankel, interprétée cette fois-ci par Marlène Samoun, que nous saluons au passage parce qu'on la connaît bien. Marlène Samoun qui dirige notamment la chorale de Aquí Estamos. Donc cette chanson, Shabbat, chanson de Judith Frankel, interprétée par Marlène Samoun. Très belle chanson, Shabbat de Judy Frankel, interprétée ici par Marlène Samoun, qui se l'est réappropriée, qui l'interprète au sens réel du terme. Hein,
et oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai trouvé très fascinant dans la réinterprétation, notamment de Marlène, de cette chanson, et puis de plusieurs autres, notamment Hélène Obadia, avec le groupe Presencia qui l'a réinterprétée, c'est le fait que, ben, surtout dans la version de Marlène, il y a une transformation de l'instrumentation, alors qu'on est dans une composition, il y a une transformation également de rythme. On passe dans quelque chose de ternaire, alors qu'on est dans quelque chose de binaire. Elle décide de transformer même la structure musicale de la mélodie, à quel point cette chanson, cette mélodie fait partie du patrimoine, et même les différentes personnes que j'ai pu rencontrer au sein des différentes associations, très peu savaient qu'il s'agissait d'une composition.
Ce qui montre à quel point ce patrimoine qui se crée tous les jours est rapidement réapproprié, ingéré, et devient du patrimoine actuel, quoi.
Oui. Oui, oui, oui.
Et ça, c'est un des concepts principaux de votre ouvrage que vous développez, celui de la patrimonialisation, justement, du répertoire judéo-espagnol. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cette patrimonialisation?
Oui, alors, la patrimonialisation, il s'agit d'un processus de matérialisation et d'institutionnalisation d'une musique. Parce que les pratiques musicales des judéo-espagnols étaient multiples. Il y avait de multiples chants dans différentes langues. On n'a pas uniquement le répertoire en judéo-espagnol, de différents interprètes. Et c'est le projet de sauvegarde dans un premier temps. Et ensuite, l'idée d'aller au-delà de la sauvegarde pour le faire reconnaître. Donc l'institutionnalisation qui ne passe pas forcément par l'UNESCO ou des grandes institutions, mais c'est l'idée qu'il y a quelque chose, il y a une machine derrière qui va essayer de pérenniser ce répertoire et de le rendre accessible pour le long terme. La particularité de cette patrimonialisation et de cette actualisation de ce patrimoine, c'est que dans la plupart des cas, lorsqu'on parle d'un patrimoine, il provient de la communauté. Il est sauvegardé et il est réactualisé par la communauté. Ce qu'on a pu voir dans le répertoire judéo-espagnol, c'est des artistes aujourd'hui qui ne sont pas issus de cette communauté, mais qui remettent au goût du jour et qui ensuite permettent aux judéo-espagnols, aux mènes ou aux descendants de judéo-espagnols de réinterpréter et de connaître le répertoire. Alors c'est quelque chose d'assez unique et c'est la discussion autour de peut-être l'idée d'appropriation culturelle dans une perspective très positive.
Et c'est ce que vous dites fort bien dans votre livre, je vous cite en quelque sorte, vous dites que cette patrimonialisation des pratiques musicales visant à établir une filiation directe entre l'Espagne médiévale d'avant l'expulsion et les juifs séfarades d'aujourd'hui permet aux judéo-espagnols de se singulariser face aux autres composantes de la communauté juive française, notamment ashkénaze ou maghrébine, mais également face aux non-juifs. Et par effet de boomerang, ce patrimoine recomposé est réinjecté au sein des familles judéo-espagnoles qui se les réapproprient jusqu'à les considérer comme un élément de référence culturelle important. La musique devient alors le miroir d'une identité reconstituée et d'une fierté retrouvée.
Oui.
J'espère que je vous ai bien cité. Enfin, en gros, c'est ce que vous dites, c'est ce que j'ai compris de votre livre. Alors, il nous reste quelques minutes, Jessica Roda, pour que vous nous parliez un petit peu de vos projets que vous développez actuellement.
Oui, alors je voulais plus particulièrement parler du projet autour de la fondation Samuel Maghrébi, avec notamment toute une équipe à Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas Samuel Maghrébi ou Salomon Hamzalak de son nom de naissance, était encore une fois une grande star de la chanson marocaine. Et il y a tout un projet autour des archives de Samuel Maghrébi, parce que c'était une emblème. Il fait partie de cette génération dans les années 50-60 en Afrique du Nord. Et Samuel Maghrébi, c'était au Maroc, qui a fourni tout un matériel musical pour le Maroc indépendant à cette époque-là, mais pas uniquement autour de ce répertoire de musique arabo-andalouse, mais également de musique populaire. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de ce répertoire, là, souvent on en parle en termes de musique judo-arabe, et l'objectif est de replonger dans le passé de ce compositeur, de ce auteur, compositeur et également musicien du roi à l'époque, qui a permis d'exporter aussi le Maroc à l'international.
Eh bien, écoutez, je vous propose justement d'écouter un extrait d'une de ses chansons, Ala Watani Wa Sultani, interprétée par Sami El Maghrébi.
سلطاني لا مقصود كل عسكري مغربي ومقصود كل عسكري مغربي الله وطني وسلطاني أبقى أمرك يا ربنا الرحمن
أبقى أمرك يا ربنا الرحمن
وبفضلك يا سيدنا السلطان
وبفضلك يا سيدنا السلطان
وبجود زعماء الوطن مغربنا مستقل وهاني الحمد لك يا الله جليل
الحمد لك يا الله جليل
فرحت في كل قلب عليل
فرحت في كل قلب عليل
بعد ما كنا بسعد قليل اليوم احرار بجودك يا الغالي الله وطني وسلطاني لا مقصود كل عسكري مغربي ومقصود كل عسكري مغربي الله وطني وسلطاني يا ولاد المغرب يا شجعان اتحدوا عيشوا في الامان
اتحدوا عيشوا في الامان
حبوا وطنكم يا شبان المغرب يا عز الاوطان سيدنا محمد يا الامام
سيدنا محمد يا الامام
الخامس عز ملوك لومام
الخامس عز ملوك لومام
نفدي وعرشك بالتمام نحييو ونجدد التهاني الله وطني وسلطاني لا مقصود كل عسكري مغربي ومقصود كل عسكري مغربي الله وطني وسلطاني مولانا الحسن يا أميرنا
مولانا الحسن يا أميرنا
عن أمرك طول ما عشنا
عن أمرك طول ما عشنا
نفدي وسومك يا رايس جيشنا ربنا ينجيك يا رقيق المعاني النجمة الخضر ربيع القلوب
النجمة الخضر ربيع القلوب
بيعلمنا الأحمر المحبوب
بيعلمنا الأحمر المحبوب
رايتنا العليا بالمرغوب بحماها عايش كل وطني الله وطني وسلطاني لا مقصود كل عسكري مغربي ومقصود كل عسكري مغربي الله وطني وسلطاني
Ala Watani wa Sultani, interprété par Sami El Maghribi, ça provient des archives de la fondation donc de Sami El Maghribi, une composition de 1956. Alors juste quelques mots sur ça.
Oui, c'est une composition de 1956 au moment de l'indépendance du Maroc. Sami El Maghribi, donc Sami El Maghribi, le Marocain, hein, donc il a vraiment choisi ce titre pour faire le lien avec le Maroc. Donc la traduction de mon collègue Christopher Silver, Dieu, mon pays et mon sultan, l'objectif de chaque soldat marocain, Dieu, mon pays et mon sultan. Donc l'idée de véritablement célébrer le Maroc. Et c'est une composition de Sami El Maghribi. Il l'interprète, il a composé les paroles et la musique également. Donc une réactualisation de ce répertoire aujourd'hui au Maroc et également dans la diaspora marocaine.
Et bien ça fera l'objet d'une prochaine émission, je crois, parce que notre émission doit s'achever maintenant. C'est passionnant. Jessica Rodin, infiniment merci donc pour votre présence dans ce studio ce soir. Quant à nos auditrices, auditeurs, je pense que désormais la musique judo-espagnole n'a plus de secret pour eux, en tout cas je l'espère. Et si vous voulez en savoir plus, il faut évidemment vous procurer le livre de Jessica Rodin, Se réinventer au présent les judéo-espagnols de France, famille, communauté et patrimoine musical, livre paru donc aux presses universitaires de Rennes. Vous trouverez les références, plus de détails, vous procurez le livre sur le site de l'Institut européen des musiques juives, www.iemj.org. Vous pouvez également réécouter bien sûr cette émission ainsi que toutes les précédentes sur ce même site et dans la rubrique podcast sur judaïquefm.com. Au micro, Hervé Roten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée et un bel été, bien sûr, et tout cela en musique.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
Sugar. I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild.